Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
À l'occasion de la Journée mondiale de la radio le 13 février 2026, Radio Campus Paris et le Crous de Créteil invitaient des associations étudiantes pour une discussion autour des relations affectives et sur la santé mentale. L'association Briser la loi du silence se joignit à cette rencontre radiophonique pour présenter leur engagement contre les violences sexuelles et de genre. Leur mission, déconstruire les tabous, amplifier la parole et faire évoluer les mentalités, en ligne, dans la rue et partout où c'est nécessaire. Dans cet épisode d'Univox proposé par Radio Campus Paris, vous découvrirez une initiative étudiante portée par des bénévoles comme Jade, coordinatrice de l'association, et interviewée par Farad Ball et Hugo Traversier.
Univox.
Comment ça va pour cette première ?
Bah écoute, c'est un peu comme un baptême, je dirais, mais ça va.
Bah, on est ravis pour le baptême.
Merci
du feu.
En tout cas.
Bienvenue sur Radio Campus Paris. Donc Briser la loi du silence, c'est une association, comme Hugo le disait, féministe, engagée contre les violences sexuelles et de genre. On peut vous voir militer sur le terrain, mais aussi sur la toile, et surtout sur la toile pour l'instant, notamment sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, où vous cumulez plus de 100 000 abonnés. Alors, pour rappeler un petit chiffre, en France, une femme sur 5 et un homme sur 14 a subi des violences sexistes et sexuelles. Selon l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur, une étudiante sur 10 aurait subi une agression sexuelle pendant ses études et une étudiante sur 20 aurait subi un viol. Pourquoi c'est si difficile de briser cette fameuse loi du silence ?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font que c'est très très difficile de briser cette loi du silence, comme on l'appelle. Déjà, il y a toute cette pression, on va dire, sociétale, c'est-à-dire que très peu de victimes osent en fait parler de ce qu'elles ont vécu. Et en fait, c'est aussi un sujet qui est longtemps resté tabou dans la société en général. Ce qui fait que c'est très difficile pour certains et certaines de parler. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on offre cet espace de parole et de rencontre. Et oui, je pense que les victimes ne sont pas assez écoutées et pas assez, on va dire, prises au sérieux et pris au sérieux, parce qu'il existe aussi des victimes masculines, même si elles sont moins nombreuses, malheureusement. Donc voilà, je pense que c'est énormément pour ça que c'est très difficile de briser, on va dire, cette loi du parole. Enfin, voilà.
Alors, une de vos spécificités, c'est de récolter des témoignages. Pardon.
Exactement.
Alors, comment vous y prenez pour récolter des témoignages ? Parce qu'on peut se dire, c'est déjà très traumatisant. En plus, le partager. Donc, comment vous arrivez à installer ce climat de confiance pour qu'on puisse le partager avec vous ?
Alors, on fait énormément de vidéos de prévention sur les réseaux sociaux et on essaye de vraiment instaurer un climat, comme je le disais, très safe place, très rassurant. Et autre que notre compte Instagram Briser la loi du silence principal, on a un autre compte Instagram Témoignages BLLDS qui permet de... via un Google Form ou via l'adresse mail de Briser la loi, de déposer son témoignage. Et ça peut être fait de totalement anonyme, c'est-à-dire que ce n'est pas obligé de dévoiler son nom. Et c'est aussi un choix de le partager, on va dire, sur la sphère, on va dire, médiatique. Et c'est un choix, sinon juste de nous le partager et qu'on soit... juste comme une sorte d'épaule, on va dire, et de carnet ouvert où les victimes peuvent simplement déposer leur vécu.
Donc, soit on communique via DM.
Oui, c'est ça.
Via DM, son témoignage. Soit on souhaite qu'il soit pas relayé. Donc là, il est pas relayé.
Exactement.
Et si on souhaite qu'il soit relayé, il y a plein d'options. Il y a l'anonymat. Le nom, ou alors des personnes qui souhaitent aussi à visage découvert, j'ai vu qu'il y a des témoignages vidéo. Comment vous y êtes pris pour vous-même en tant qu'association, garder aussi une distance, parce qu'on pense évidemment aux victimes, mais on pense aussi à celles qui lisent et à ceux qui lisent ces témoignages à longueur de journée. Comment vous organisez pour aussi, vous, continuer à fonctionner de manière la plus saine possible ?
Oui. Oui, c'est une réelle question. Alors, on a un sous-pôle qui, justement, s'occupe de recueillir ces témoignages-là. Et souvent, ces personnes-là ont un recul et ont une prise de conscience également sur les histoires qu'elles vont lire et qu'elles vont entendre. Donc, elles ont une totale conscience. Après, le poids est parfois lourd à porter, mais on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'on est une équipe aussi entière, même si moi-même, je ne fais pas partie de ce pôle-là. Oui, il y a cette difficulté-là. Après, on sait aussi que si jamais le poids est trop lourd à porter, on n'hésite pas à orienter ces personnes-là vers d'autres solutions, comme des numéros d'écoute, ou aussi parfois le planning familial, ou alors des psychologues, puisque aujourd'hui, il y a un plan qui fait qu'on peut avoir 6 séances aussi offertes.
Ouais, avec mon dispositif, numéro 3919.
Exactement.
D'accord.
Donc ça dépend après du poids. Il y en a simplement qui veulent juste, déposer et laisser un poids, déposer un poids. Et il y en a qui ont vraiment besoin d'une aide. Après, nous, en tant que, parce qu'on est quand même une association et des bénévoles, on n'a pas ce rôle-là d'être médecin ou de vraiment apporter, des conseils dits médicamenteux ou tel un médecin. Et c'est d'ailleurs aussi un des conseils qu'on donne quand des bénévoles rentrent dans notre association, c'est de ne pas se positionner en tant que médecin, mais en tant qu'épaule et en tant que personne bienveillante qui est là pour écouter la personne, en fait. Voilà.
Souvent, lorsque t'es témoigné, c'est déjà un énorme pas,
oui.
Mais on se sent souvent seul avec ces violences-là. Vous décidez de, justement, même si vous êtes très actif, je le répétais, avec plus de 100 000 abonnés sur les réseaux et que c'est là que vous récoltez les témoignages, vous décidez de ne pas rester seulement sur la sphère virtuelle mais aussi sur le terrain. Et comment on fait ce pont justement entre réseaux sociaux et IRL? Comment vous arrivez à proposer des solutions pour justement créer du lien dans la vraie vie?
Ça, c'est une réelle question. En plus, c'est vrai que notre association est assez jeune, elle a 2 ans à peu près. Et aujourd'hui, elle est surtout présente sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que notre réel souhait, c'est de passer sur le terrain.
Parce vous le faites déjà.
Oui, on le fait déjà, mais on aimerait faire plus d'événements. Parce qu'on est une association jeune et on n'a pas encore énormément de moyens. Mais oui, on le fait déjà, mais on aimerait le faire beaucoup plus. Parce que, autre que de déposer ce témoignage à travers, un écran, c'est aussi très sympa de pouvoir se retrouver en IRL. Et de passer aussi des moments, des moments un peu plus, tranquilles. Et comment on fait ça ? On a un pôle communication. Nous, d'abord, on a le pôle coordination où on réfléchit à des événements qui peuvent être sympas. Là, les prochains événements auxquels on a pensé, c'est par exemple des ciné-débats. On a aussi le Perlaine Blabla qui est déjà mis en place. Où c'est tout simplement être ensemble, faire des perles ensemble, donc vraiment se vider la tête. On pense à ce genre d'événement-là. Et après, le pôle communication relaie sur les réseaux ces événements-là, ce qui fait que les victimes ont l'opportunité de venir à ces événements-là et de pouvoir se retrouver en IRL. Voilà comment ça se passe en général. Voilà.
Et il faut savoir aussi que vous êtes sur 2 villes.
Les événements
se passent sur Lyon et sur Paris.
Exactement. Donc le même système, se fait un peu sur les deux villes. Parce qu'il faut savoir que la fondatrice Elsa vient de Lyon et est basée sur Lyon. Son souhait, c'était de déployer, son association, dans d'autres villes. Donc pour le moment, on a déployé Lyon et Paris. Et Paris, du coup, celle qui est un peu le bras droit, c'est Sam. Ce qui fait qu'on a vraiment 2 grosses équipes, une à Lyon et une à Paris. Donc, on essaye au maximum. Après, notre souhait dans le futur, ce serait de pouvoir faire d'autres villes. Mais c'est vrai que financièrement, on est quand même encore une petite asso et tout. Mais on aimerait, oui, que ce soit vraiment pour toutes les victimes, de France, finalement.
Donc ici, on se trouve sur un campus universitaire et je me posais la question de l'amplification d'habiter sur un campus universitaire, parce qu'on peut s'imaginer que l'agresseur, l'agresseureux, se trouve sur le campus. Du coup, ça nous déscolarise. Est-ce que vous avez des témoignages là-dessus sur des personnes qui investissent moins l'université parce que c'est là où se trouve l'agresseur ?
Oui, on a déjà eu des témoignages autres que sur un campus, en effet, qui ont développé une sorte de phobie scolaire parce que oui, elles étaient amenées à rencontrer leur agresseur. Enfin, même ça existe sur d'autres lieux, hein, comme le lieu de travail ou des lieux où on est habitué en fait à vivre, même dans sa propre ville. C'est parfois pas hyper simple. Malheureusement, c'est vrai que on peut se tourner que vers des associations comme la nôtre, ou alors vraiment des aides, on va dire, extérieures, pour ne pas être seul. En fait, vraiment, le plus important, c'est de ne pas être seul et de oser demander des mains et demander aussi de l'aide, et de pas rester justement enfermé, on va dire. Même si c'est très difficile ce que je dis, parce que c'est plus, on va dire, facile à dire qu'à faire, hein, de dire je vais aller dire à quelqu'un ce que j'ai vécu, parce que c'est un poids et c'est quelque chose dont on se confie finalement. Mais oui, je pense qu'on a déjà eu des témoignages comme ça, et je sais que notre aide leur a été très très bénéfique, parce qu'elles se sont senties plus, on va dire, courageuses et plus, on va dire, fortes, même si c'est pas le mot, mais on va dire avoir plus les épaules pour, survivre, en fait. En fait, c'est la limite, même vivre, en fait, à la fin. C'est le but aussi. Voilà.
On fait une pause musicale avec Coquelicot et Nous sommes.
Nous sommes l'histoire qui se rappelle, l'écho des cris de nos grands-mères. Nous sommes la résistance d'un peuple juste révolutionnaire. Nous sommes fortes, nous sommes fières, féministes et en colère. Nous sommes le torrent, la rivière, poussière d'étoiles dans l'univers. Nous sommes cette chaîne solidaire, nous sommes les mères d'une nouvelle ère. Nous sommes la rage qui jaillit, avide de paix et d'harmonie. Nous sommes la jeunesse d'un pays qui croit encore en l'utopie. Nous sommes l'ici, le maintenant, qui veut qu'on puisse vivre dignement. Nous sommes l'avenir que l'on espère, nous sommes nouveaux fronts populaires. Nous sommes la danse dans le chaos, ce qu'il nous reste de plus beau. Cette fois on gagne, danse, danse. Cette fois on gagne, danse, danse. Cette fois on gagne, danse, danse. Cette fois on gagne, danse, danse.
Nous sommes la manifestation de l'immensité de notre union. Nous sommes ces graines de coquelicots qui sèment partout
révolution.
Nous sommes cette aube qui ose croire quand elle se lève en son pouvoir. Nous sommes ce demain dont on rêve et qui nourrit tous nos espoirs. Nous sommes l'épaule sur laquelle tu pourras toujours t'appuyer. Crois-moi, c'est toi qui m'aide encore aujourd'hui à me redresser. Nous sommes la naissance d'un élan qui aime l'humain et le défend. Nous sommes la mémoire des ancêtres, nous sommes la blessure d'un seul être. Nous sommes l'avenir que l'on espère, nous sommes nouveau front populaire. Nous sommes la danse dans le chaos, nous sommes ces frissons sur ta peau.
Cette fois on gagne, on gagne. Cette fois on gagne, on gagne. Danse, danse. Cette fois on gagne, on gagne. Danse, danse. Cette fois on gagne, on gagne. Danse, danse.
Nous sommes de ceux qui ne peuvent se taire face à la terreur qu'ils libèrent. Nous sommes cette jeunesse éternelle, celle bien des terres, celle qui espère éradiquer la misère. Cessez-le-feu sur toutes ces terres. Ensemble nous sommes indestructibles et invaincus quoi qu'il arrive. Nous sommes pour écraser l'infâme, nous sommes l'amour. Cette fois on gagne, on gagne.
Et c'était Nous sommes de Coquelicot.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
En 2024, il y a un documentaire qui a été réalisé par l'association qui s'appelle Le règne du silence, qui comptabilise déjà 16 000 vues sur YouTube. Qui correspond en fait à une récolte de différents témoignages. Et ça, on voit des témoignages qui sont récoltés à visage découvert et à visage couvert. Est-ce que vous avez mis en place un dispositif justement pour qu'il y ait du lien entre toutes ces personnes qui témoignent, je ne sais pas moi, un groupe de parole, ou alors chacune est venue témoigner de son côté ?
Alors, comment ça s'est fait? C'est que nous, outre les équipes, on va dire, de coordination, collaboration, enfin, les grosses équipes qui gèrent les événements, on a aussi un pôle, enfin, un groupe, parce que ça fonctionne beaucoup par WhatsApp, nous, comment on fonctionne. D'ailleurs, tous ceux qui le souhaitent, s'ils veulent rejoindre notre association, ils et elles sont les bienvenus. Le lien du groupe WhatsApp est dans la bio Instagram de Briser la Loi. Et donc, ce sont des bénévoles qui ont décidé de rejoindre l'aventure et qui ont décidé, on va dire, de rejoindre Briser la Loi. Et du coup, quand on a lancé ce documentaire-là, on a lancé un appel à témoignages sur ce groupe-là, de savoir qui était partante, de témoigner et de venir participer à ce documentaire en état de cause, soit à visage flouté, soit à visage, on va dire, découvert. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc le groupe WhatsApp en lui-même est déjà un sorte de groupe de parole où on est vraiment tous et toutes libres de pouvoir discuter ensemble. Et après, comment s'est fait le documentaire? Il y a eu du coup des témoignages. On a également invité des professionnels. Et après, bien évidemment, lors du process du documentaire, il y a eu des rencontres IRL qui se sont faites. Donc voilà un petit peu comment ça s'est goupillé, entre guillemets. Et aujourd'hui, bah, on est encore énormément en contact. Ces personnes qui ont participé au documentaire sont encore énormément en contact. Et d'ailleurs, suite à ce documentaire-là, il y a eu une diffusion aussi IRL dans un cinéma qui a été faite. Ce qui a permis encore plus de renforcer et de concrétiser ce projet qui a été très très important pour l'association. Voilà.
Et est-ce qu'il sera rediffusé ailleurs encore ce documentaire?
Alors, il est actuellement disponible sur YouTube. Après, on aimerait justement organiser d'autres ciné-débats pour pouvoir le rediffuser en effet et pouvoir aussi se tourner vers d'autres collaborations. Pour pouvoir le rediffuser. C'est vrai que ce serait un de nos souhaits qu'il soit vraiment diffusé, on va dire, au plan très très large, quoi. C'est vraiment, en effet, un souhait.
Et à titre personnel, vous, là je pense à toutes les personnes qui souhaiteraient peut-être rejoindre cette association, comment tu as décidé d'intégrer l'asso, voilà, via quel cheminement et s'il y a des gens qui seraient intéressés de l'intégrer? Oui.
Alors,
Parce qu'il y a, comme tu l'expliquais, il y a différents pôles.
Oui,
donc exactement. On n'est pas directement en première ligne à recevoir les témoignages. On peut faire autre chose.
Exactement. En gros, moi, comment j'ai rejoint l'association, il faut savoir que moi-même, j'ai été victime d'agression. Bon, désolée si ça trigger. Je ne sais pas si je peux en parler ou pas.
Oui. Sans toi libre.
Okay.
C'est la parole.
Ok. J'ai subi une agression de la part de mon moniteur d'auto-école. Il y a de ça 2 ans et demi. Ça a été très très difficile. J'avoue que à cause de ça, je suis tombée en dépression. Ça n'a pas été super simple. Et outre les aides, on va dire un peu psychologue, psychiatre, etc. Je voulais vraiment avoir, on va dire, une safe place. Et le déclenchement, ça a été la journée du 8 mars. Je voulais vraiment aller manifester pour la Journée internationale des droits de la femme. Et je suis tombée sur Briser la Loi du silence, qui a relayé le fait qu'ils allaient aller manifester et tout. Et je me suis dit, ce serait sympa d'aller manifester avec eux. Et j'ai eu une très très bonne, il y a eu une très très bonne synergie. Je me suis vraiment bien sentie. Et suite à ça, je les ai suivis sur les réseaux. J'ai suivi ce qu'ils ont fait. Une fois, ils ont fait un appel à bénévoles. Je me suis dit, let's go. J'ai encore envie plus de m'investir en fait dans cette cause. Parce que de une, je suis victime, enfin, j'ai été victime, et de deux, c'est une safe place, et de trois, c'est aussi des gens qui ont un peu... Enfin, après, dans notre asso, on n'a pas que des victimes, hein. Je veux aussi préciser, on peut venir dans cet asso en tant que personne, on va dire, extérieure, ou comme on pourrait dire, alliée, entre guillemets. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint l'association. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien, parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui ont aussi vécu des choses, ou pas forcément, mais qui sont dans une totale compréhension. Et ça fait du bien, en fait, moralement. Et c'est pour ça que j'invite beaucoup, parfois, les gens à rejoindre Briser la Loi, même en tant que bénévole, on va dire classique. Donc, quand je dis bénévole, c'est vraiment juste venir aux activités qu'on organise, de nous suivre, parce que c'était vraiment, vraiment une safe place, quoi. Voilà.
Donc la transmission devient une thérapie.
Exactement.
Ouais. Est-ce que tu as l'impression que dans la société aujourd'hui, on avance un petit peu ? À petits pas, certes, mais est-ce qu'il y a de plus en plus de structures et tu sens une évolution des mœurs ? Ou pas, tu as le droit de dire non et peut-être qu'on va vers le bas, justement.
Je pense que oui, et mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Et ça, je m'en suis réellement rendu compte quand je suis rentrée dans l'association. En écoutant justement les témoignages des uns et des autres, je me suis dit qu'on a quand même pas mal de travail encore à faire. Ne serait-ce que, bah, un exemple, c'est peut-être un peu touchy que j'en parle, mais ne serait-ce que la réception de la victime quand elle va au commissariat, c'est parfois assez hallucinant dans tout ce qui est côté de la justice. Après, je dirais qu'il y a une avancée parce que je dirais quand même qu'il y a quand même beaucoup de structures qui émergent, il y a beaucoup d'aides qui existent. Pour apporter le soutien. Après, je vais dire dans le côté justice et vraiment, ça, je suis un peu moins persuadée que ça avance, personnellement. Mais,
oui, et voilà. Puis il y avait une statistique intéressante, justement, que vous mentionnez dans le documentaire, qu'une sociologue mentionne, qui était qu'avant, on était entre 10 et 15% de plaintes déposées. Aujourd'hui, on est à 15-20%. Voilà, c'est pas non plus...
Non.
Voilà, la panesse, quoi. C'est 5% de plus.
Oui.
Donc, il y a encore entre 75 et 80% qui ne déposent jamais plainte après une violence subie.
C'est ça. Bah, en fait, je pense que ça s'est... c'est pas le bon terme, mais ça s'est démocratisé avec des mouvements comme MeToo, par exemple, qui ont en fait lancé un élan, on va dire, de déposer sa parole, de venir déposer plainte, etc. Mais c'est encore hyper compliqué. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est... encore hyper, hyper tabou aussi, parce que déjà, comme on le dit, il y a déjà l'étape de vivre ça, il y a l'étape d'accepter d'avoir vécu ça, il y a l'étape d'accepter de se faire aider, de ne pas rester seule, et il y a l'étape de est-ce que je veux aller jusqu'à la justice, mais est-ce que si je vais jusqu'à la justice, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, entre guillemets, parce qu'en fait... si on regarde, parfois il y a des non-lieux ou alors on n'est pas pris au sérieux et non, ça reste encore compliqué. Même si en effet il y a une hausse des dépôts de plaintes, je pense que oui, il y a des élans comme ça qui ont, on va dire, fait des pics, mais c'est encore, je pense, très compliqué. Voilà.
Justement, au niveau de l'accueil dans les commissariats, au moment du dépôt de plainte, de la prise du témoignage, comment est-ce qu'on pourrait améliorer cet accueil et sensibiliser les policiers à ce thème-là?
Déjà, je pense que on devrait faire passer à tous les policiers une sensibilisation aux agressions et aux victimes, aux violences, je veux dire, sexuelles, sexistes et tout, parce qu'ils ne sont pas sensibilisés par rapport à ça. Et j'aimerais aussi que, quand on arrive dans un commissariat, on prenne en compte aussi le souhait de la victime. Moi, j'ai eu de la chance, personnellement. C'est-à-dire que quand je suis arrivée au commissariat, j'ai demandé à ce que ce soit une commissaire femme qui me reçoive. Mais ce n'est pas le cas partout. Il y en a, ils sont très, très butés et fermés à cette solution-là. Et puis, j'en viendrais même à dire de créer carrément un pôle qui soit spécialisée dans les violences sexistes, sexuelles, de genre. Je pense que ce serait vraiment un positif, même si je sais qu'on est peut-être en manque de personnel en France et tout. Je pense que ce serait mieux, parce que nous, en tant que victimes, on serait quand même plus rassurés, entre guillemets.
Et si on est témoin, si on est... En fait... Là, j'aimerais bien qu'on termine la discussion sur peut-être des pratiques très concrètes, un petit peu comme un kit de survie lorsqu'on est témoin d'une violence, parce que j'imagine que ça arrive, que ce soit dans le métro, dans les transports, ici, dans la fac, dans le restaurant, enfin, ça peut se passer tout le temps dans sa famille. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous partagez ?
Alors, moi, je pense qu'une des bonnes pratiques à avoir, ce serait de ne pas se taire. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est témoin d'une situation, il ne faut pas hésiter à appeler des forces compétentes ou à appeler une force extérieure. Je dis toujours quand même à certains, parce qu'il y en a, ils me disent « Oui, l'autre jour, j'ai vu une fille se faire embêter par un groupe de 10 mecs. » Je dis alors « Oui, mais en fait, n'y va pas seule. D'abord, essaye de te diriger vers une aide extérieure ou d'appeler même les passants autour en leur demandant de l'aide, en fait. mais de vraiment pas rester insensible à ça, de vraiment pas fermer les yeux quand il y a ce genre de situation. Et au contraire...
Une force compétente, c'est la police, par exemple ?
La police, oui. Ou alors même les passants dans la rue. Genre, ça m'est déjà arrivé de faire un hola dans la rue, de dire « Ouais, s'il vous plaît, aidez-moi. » Parce que j'ai déjà été, on va dire, témoin d'une fille, justement, qui était embêtée. Mais je ne me sentais pas, moi, seule, en tant que femme d'un mètre 60, d'aller, on va dire, les voir et leur dire « Bon, vous arrêtez maintenant. » Genre, enfin, pas que ça ne fonctionne pas, mais c'est qu'on peut vite tomber sur des tempéraments, on va dire, voilà. Le rapport de force est inégal, mais je pense qu'il faut pas fermer les yeux, donc soit faire appel aux passants autour, mais voilà. Et en tant que victime, il faut, autre que dans ce genre de situation, il faut apporter aussi une épaule et une écoute bienveillante, même si on n'a pas les capacités, les conseils justes ou les mots justes et tout. Je pense que la présence et apporter une oreille attentive à ces victimes-là, c'est très, 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 très important. Parce que sinon, elles peuvent se sentir encore plus seules et démunies. Et je pense aussi, j'ai envie de faire une autre sensibilisation, c'est sur les réseaux aussi.
Let's go.
Parce que sur les réseaux, ça va super vite. Et moi, je n'hésite pas à signaler, par exemple, quand il y a des deepfakes qui tournent, je signale direct. J'hésite pas à aller dans les MP aussi de la personne pour savoir comment elle va. Genre, je pense qu'il faut vraiment avoir des attitudes comme ça, mais tout en faisant, on va dire, attention aussi à soi. Voilà ce que j'ai un peu comme conseil.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Univox en la compagnie de Jade de l'association Briser la loi du silence, une interview grandement menée par Farad Ball et Hugo Traversier, réalisée par Delila Escherich, à la technique Julie Adlaoui et Gustave Collet, animation et montage Marine Calmes. Univox.